Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la politique en famille. Grands-parents, parents, enfants, y compris les ados qui ne votent pas encore et les tout-petits qui en sont très loin mais qui accompagnent parfois leurs parents dans l'isoloir. Alors comment ça se passe dans votre famille, éventuellement aussi entre conjoints? Tout le monde est-il de la même couleur politique? Ou les clivages d'une campagne viennent-ils mettre de la vie et donc parfois du désordre? L'articulation entre la chose publique, la République et la sphère privée, est passionnante à scruter. Intervenez, y compris les enfants, les tout jeunes auditeurs d'Inter, jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Trois manières de nous joindre et de dialoguer avec nos invités. Anne Muxel, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, au CEVIPOF. Vous avez dirigé la vie privée des convictions, politique, affectivité, intimité. C'était aux presses de Sciences Po en 2014. Vous êtes l'auteur de Toi, moi et la politique, amour et conviction au seuil en 2008. Je salue également Julia Pagis.
Bonsoir.
J'ai fait une faute. Oui, effectivement, j'ai mis un A au lieu d'un E. Julie Pagis, excusez-moi, chargée de recherche au CNRS, co-auteur de L'enfance de l'ordre aux éditions du Seuil, livre qui vient de sortir, et animatrice du blog Présidentiel sur lemonde.fr. En un mot, c'est un blog que vous co-dirigez avec une formidable dessinatrice. Dites-nous en quelques mots.
Oui, en deux mots, c'est Lisa Mandel qui est dessinatrice de BD, qui est formidable pour restituer. En fait, elle m'accompagne dans une enquête que je mène cette année dans une école primaire en banlieue parisienne sur les enfants et la présidentielle. Et voilà, elle croque, et elle restitue ça dans ce blog. Et il va y avoir un livre, la BD va sortir chez Casterman en juin. Et tous les mots qu'elle met sont les mots des enfants. Et voilà, je vous invite à y aller voir.
C'est formidable. Présidentiel sur le site du Monde. Anne Muxel, comment en êtes-vous venue à travailler sur cet aspect-là du vote, de la conviction politique, à savoir la sphère intime?
Parce que, on le sait, la famille joue un rôle toujours important dans la construction de l'identité politique des individus. C'est en famille, au travers effectivement de cette imprégnation, au travers de l'éducation, de la façon dont les enfants décryptent très tôt, décodent très tôt, au travers de toute cette vie affective, de cette vie quotidienne avec leurs parents, les repères politiques qui sont les leurs et à partir desquels se situer. Donc, dès l'instant où l'on veut comprendre la politisation des individus, la construction des identités politiques, il faut bien évidemment regarder ce qui se fait, ce qui se construit dans le cadre, le cadre intime et familial.
Les familles sont très différentes. Enfin, elles sont des corps vivants qui évoluent à travers les années, les décennies. Est-ce que la politisation en famille se fait de la même façon aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple, ou 40 ans?
Non, bien sûr, ça a changé. Les familles ont changé. La famille reste toujours un vecteur de transmission des idées, des choix politiques, des valeurs, mais la famille, elle s'est désinstitutionnalisée, elle s'est individualisée, elle est aujourd'hui une famille qui est d'abord relationnelle, où l'affectif fait l'objet d'un surinvestissement, mais c'est pas pour autant que la transmission ne se fait pas, justement. Peut-être même d'ailleurs qu'elle se fait encore mieux qu'avant, elle se fait de façon moins normative et plus affective.
Julie Pagis?
Oui, tout à fait, sur ce point, effectivement, le rôle des affects, les enfants très jeunes, nous on a travaillé avec des enfants d'école primaire, de 7 à 11 ans. Très jeunes, les enfants apprennent d'abord à aimer avant de savoir pourquoi. Donc nous, on a des enfants qui vont nous dire « moi j'aime la gauche, moi je suis de gauche » ou « j'aime Mélenchon ». Et ils le savent, donc les goûts, vraiment, on parle de goûts politiques, là au sens premier, ils ont les préférences, et notamment le moment des soirées électorales ou des informations devant la télé sont des moments très importants où les enfants perçoivent les préférences parentales, politiques, et du coup les intériorisent et se les approprient à cet âge-là.
Ils expriment dans la cour de récréation, c'est ça, mais pas seulement.
Oui, ils les expriment dans la cour de récréation et ils les expriment face à nous. Ils ont énormément de choses à dire, en fait, dès qu'on les interroge.
Oui, ils sont absolument passionnés par la politique, les enfants. C'est sidérant.
Alors, pas tous. Il faut quand même rappeler, nous, on avait fait aussi avec Wilfried Ligné, avec lequel on sort le livre Au Seuil, une enquête dans deux écoles primaires lors de la dernière campagne présidentielle. Sur 338 enfants, il y a quand même... les enfants vont vous dire la politique c'est ennuyeux, ils sont quand même distants de ce champ politique qui n'est pas fait pour eux parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Et en même temps, effectivement, quand on creuse, ils ont énormément de choses à dire. Et contrairement à des idées reçues, ils ne font pas du tout que répéter ce que disent leurs parents. Ça, c'est ce qui revient souvent, alors que j'aurai l'occasion de vous raconter, ils s'y prennent autrement.
Sophie, bonsoir, vous nous appelez de Bordeaux.
Oui, bonsoir.
Première question du téléphone sonne, nous vous écoutons, bienvenue.
Bien, merci, félicitations à toute l'équipe de France Inter. Je suis une nouvelle auditrice et j'en suis très fière.
Eh ben, merci infiniment, ça nous fait très plaisir.
Et très satisfaite, bravo pour les cheveux rouges.
Oui, ça, je vais faire un shampoing après.
Voilà,
c'est à cause de Sébastien Paour. Allez, on vous écoute, Sophie.
Oui, écoutez, je vous appelle par rapport à votre sujet sur les enfants, la politique et la famille, puisqu'on a fait une expérience familiale assez amusante ce week-end, où on était tous réunis pour Pâques.
Oui.
Et les enfants ont décidé de faire une élection, donc en prenant les candidats qui vont se trouver au premier tour ce 23 avril, et en proposant aux parents de faire un vote dans une salle qu'ils ont tout aménagée avec isoloir, une urne pour nous faire voter. Et ils ont organisé ça tout seuls, c'était assez amusant. Ils ont entre 6 et 15 ans, donc ils étaient un petit peu en découverte.
Mmh.
On a tous participé et voilà, on a fait en sorte que notre vote soit représenté. Et ils ont tous, voilà, ils nous ont demandé de voter comme si on était réellement le 23 avril pour voir ce que ça donnait.
Uh-huh.
Et donc voilà, la famille entière a joué, a participé.
Et vous êtes une famille très politisée, une famille où ça parle beaucoup pendant cette campagne, mais aussi tout au long de l'année et entre différentes élections qui parlent politique.
C'est toujours un sujet qui passionne la famille. C'est toujours un sujet sur lequel on a pas mal de débats, pas mal de discussions. Et voilà, on n'est pas tous d'accord, évidemment, on a chacun nos opinions, et voilà, c'était important pour nous, de toute façon, pour chaque famille, les enfants sont assez intéressés par cette campagne, parce qu'ils en entendent beaucoup parler, et donc on participe à ça, et puis c'était aussi une manière, on était très contents qu'ils le fassent, parce qu'ils voient que le vote est important, que c'est un acte citoyen, et voilà, leur action nous a beaucoup amusés, mais à la fois, ça nous a amené tous à réfléchir ensemble, et c'était assez... C'était un bon moment, assez sympa. Donc, je conseille à toutes les familles d'en parler à leurs enfants. On voit l'intérêt qu'ils y portent et c'est parfois assez surprenant.
Merci beaucoup, Sophie, pour votre intervention. Qui veut dire un mot, Anne Muxel ?
C'est une très belle initiative et sûrement un moment important. C'est vrai que les temps d'élection sont des moments chauds, hein, justement où l'on parle encore plus de politique, puisque c'est quand même d'abord en famille que l'on parle de politique. C'est important de le rappeler, on en parle plus qu'avec ses amis, plus qu'avec ses collègues de travail. Donc forcément que dans les moments d'élection, il y a des occasions. Et là, quand les occasions sont déclenchées par les enfants, c'est tout à fait passionnant. Alors, je dirais juste que dans cette famille, bravo, les parents se sont prêtés au jeu, parce que moi j'ai travaillé sur la question du secret du vote. Et il ne faut pas croire dans les familles que l'on dit si facilement que cela à ses enfants, à ses parents, à son conjoint, c'est quand même à son conjoint qu'on dit le plus pour qui l'on vote. Mais à ses enfants, à ses parents, entre frères et sœurs, très compliqué. Donc, en fait, je trouve, voilà, dans cette famille, si tout le monde a pu voter et énoncer, publiciser finalement son vote, c'est déjà un exercice qu'il faut saluer.
Julie Pagis.
Oui, ce témoignage est hyper intéressant et m'étonne pas parce que les enfants sont quand même de plus en plus familiers avec l'institution du vote, avec les élections des délégués dans leur classe. Et c'est vrai que nous, on avait pu constater que les enfants vont dire pour qui on vote déjà, voire même, ils nous disaient en 2012 à 8 ans, qu'il y en avait certains qui avaient un petit club de copains pour y appartenir. Il fallait être de gauche et ils sentent qu'on leur, des fois ils disaient moi je vote Eva Joly ou moi je vote Mélenchon, ça leur sortait comme ça parce qu'effectivement dans ce contexte très médiatisé de la campagne présidentielle, ils s'impliquent et ils reprennent les choses à la première personne. Peut-être juste sur dans les familles, même dans les familles où on parle pas, nous on a pu voir comment est-ce que les enfants vont chercher des signes et vont pouvoir avoir des signes des préférences de leurs parents. Je pense à par exemple à un enfant qui nous disait que son père n'aimait pas Sarkozy, et alors que c'est dans une famille où on ne parle pas politique et encore moins avec les enfants, on dit mais comment tu sais ? Et il dit je vois parce que quand il est à la télé, il zappe. Donc en fait, les enfants cherchent des signes et comme ça, intériorisent des fois de manière même non-verbale les préférences politiques parentales.
Allez, on retourne au standard. Zachary, 16 ans, est en ligne et nous appelle de Rennes. Bonjour Zachary, bienvenue.
Bonjour, oui, donc j'ai 16 ans, donc moi je ne peux pas encore voter.
Ouais.
Mais depuis que je suis tout petit, mes parents, quand j'étais enfant, je mettais le billet dans l'urne et je pense qu'on intériorise déjà quelque chose en le faisant. Et je pense que si on laisser voter dès 16 ans et le rendre obligatoire jusqu'à la majorité, justement, en le rendant obligatoire pendant ces deux années, on intérioriserait quelque chose et on éviterait l'abstention.
Vous aimeriez là voter, pouvoir aller dans un bureau de vote ce dimanche,
ouais,
et mettre un bulletin dans l'urne?
Oui, il y a un petit peu de frustration quand même.
Ouais, j'ai eu la même, j'avais la même à votre âge. Et donc, vous êtes allé très souvent quand vous étiez petit avec vos parents dans l'isoloir, c'est ça?
Oui, c'est ça,
mettre
ouais.
le bulletin dans l'urne et ensuite
oui,
mettre l'ensemble.
Ouais. Tout à fait.
Bah écoutez, merci, merci Zachary. Là, on voit, merci beaucoup. Là, on voit Anne Muxel, l'apprentissage du vote. En fait, ça remonte très, très loin. Aller au bureau de vote, aller dans l'isoloir, c'est important. Hein.
Oui, alors ça, c'est très important parce qu'effectivement, toute cette transmission familiale, transmission politique, elle se fait, comme on l'a vu, par imprégnation indirecte. Elle peut se faire par des non-dits, par ce repérage de signes, etc., par toute cette captation dont les enfants sont capables. Mais elle se fait aussi dans certaines familles par les valeurs d'exemples mis en évidence par les parents, c'est-à-dire emmener ses enfants systématiquement voter, emmener des enfants à une manifestation, entraîner les enfants avec soi au travers d'exemples concrets des façons dont on est soi-même politisé en tant que parent. Évidemment que ça renforce encore les chances de transmission et de transmission durable. Parce que là, on le voit bien pour ce
oui, il
ce
veut
jeune,
le vote obligatoire
ce jeune homme,
entre 16 et 18
on
ans.
On voit bien que voilà, il veut voter même avant même l'âge de voter.
Julie Pagis, puis d'autres questions encore pour Anne Muxel. Julie
oui,
Pagis.
Par rapport à cette question, effectivement, beaucoup d'enfants nous racontent aller avec leurs parents voter. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, pour les enfants dont les parents ne sont pas de nationalité française, il n'y a pas du coup ce rituel. Et du coup, il y a une beaucoup plus grande distance, parce qu'en fait, on observe des différences de politique chez les enfants dès 7 ans entre garçons et filles. Garçons plus politisés par classe sociale, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on est politisé, aussi par origine migratoire. Et donc effectivement, en tout cas, la question de donner le droit de vote aux étrangers aurait un effet direct sur l'implication des enfants qui, eux, sont français parce que nés en France, aurait un effet direct peut-être pour baisser l'abstention au futur.
Alors précisément, comment se fait, là on a vu l'apprentissage du vote, mais Anne Muxel, comment se fait l'apprentissage de l'abstention? Est-ce que quand on est issu d'une famille qui ne va pas voter, les enfants arrivés à 18 ans ne votent pas?
Oui, l'exemple de l'abstention, il se transmet aussi. C'est vrai que si on grandit dans une famille peu politisée, distante en fait du système politique, eh bien on a plus de chances d'être soi-même à son tour distant du système politique. Ça, c'est vrai qu'il y a aussi la transmission d'une forme de dépolitisation ou de voilà, mais l'abstention malgré tout, mais on va pas forcément en parler ici, est aussi un comportement qui maintenant a une autre signification. Il est associé au vote, le vote systématique est en forte réduction, donc maintenant le comportement électoral dominant, c'est un vote intermittent marqué par une alternance du vote et de l'abstention. Donc probablement que dans les générations futures, comme les parents sont de fait de plus en plus abstentionnistes, puisque l'abstention s'est élargie, eh bien, les générations futures seront probablement, eux aussi, à leur tour, des électeurs intermittents.
Julie Pagis, et puis on va au standard.
Oui, on sait qu'une partie de l'abstention, effectivement, est aussi due au fait de ne pas se sentir représentée. Et ce qu'on voit bien chez les enfants, c'est que quand on leur a présenté avec Lisa Mandel les photos des 11 candidats, et on leur a fait commenter même le physique, c'était assez marrant. Et sauf qu'en même temps, ils s'étonnent de choses, ils disent... Il y en a une qui dit « Oh non, mais pourquoi il n'y a pas un seul noir ?» Et d'autres qui disent « Ah, mais pourquoi il n'y a que deux femmes ?» Et pourquoi ils sont tous vieux? En fait, avec leur étonnement d'enfant, ils dressent le tableau de
l'hémicycle. Oui, c'est une sociologie implacable.
Et voilà, je pense qu'effectivement, l'abstention, elle commence par l'implication et le fait de pouvoir se sentir représenté, notamment en termes, là, pour le coup, de sexe dans les candidats. C'est flagrant dès l'enfance.
Allez, on file au standard. Bonjour Romain.
Bonjour.
Oh, tu es tout jeune, tu as quel âge?
J'ai 10 ans et j'habite à Nantes.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Romain, ce soir?
C'est qu'en fait, pour moi, la politique dans ma famille, c'est que chaque jour, essaie de dire que son
candidat est le meilleur.
Oui, voilà, que de ramener les autres dans son côté et d'essayer de faire voter les autres la même personne que lui.
Alors, du coup, comment ça se passe, Romain? Ça se dispute ou pas?
Non, ça se dispute pas vraiment, mais à table, ils en parlent souvent, quoi.
Ça fait du bruit, Romain?
Ouais, ça fait du bruit, mais enfin, c'est pas si fort. Il se crie pas dessus, mais en tout cas, il parle, il discute un peu.
Et tu comprends, Romain, ce qui se dit à table? Tu comprends un peu ce qui se passe dans cette élection?
Oui, je comprends un peu que c'est une élection qui est un peu différente des autres parce qu'elle est un peu dure. Les candidats, il y a des candidats qui gagnent, mais après qui descendent tout de suite. C'est une élection compliquée.
Tu as regardé la télévision ou pas?
J'ai regardé souvent la télévision. Par exemple, j'ai regardé quand ils allaient j'ai regardé le premier tour.
Oui.
De la gauche.
Oui.
Sinon, j'ai rien regardé.
Et t'aurais envie de voter, toi, à 10 ans ou pas? Ou tu attends d'être grand?
Je comprends qu'il faut attendre d'être grand pour un peu comprendre beaucoup plus qui voter.
Ouais, c'est vrai, mais enfin, tu m'as l'air drôlement intelligent. Je te remercie beaucoup, Romain, d'avoir téléphoné aujourd'hui sur France Inter. Et bonne fin de campagne à toi et à ta famille. Est-ce que Sidonie est en ligne?
Oui.
Bonjour Sidonie, tu as quel âge?
Bonjour,
9 ans. 9 ans, alors qu'est-ce que tu veux nous raconter?
Que moi, dans ma classe, y a des élèves qui ont déjà, qui disent qu'ils savent pour qui voter, qui ont leur avis.
Alors, ils ont leur avis sur le prochain président de la République, c'est ça?
Oui.
Et vous en parlez ensemble dans la cour de récréation, Sidonie?
Oui.
Comment, de quoi vous parlez exactement? Raconte-moi.
Il y en a qui disent, moi, j'aimerais bien que ce soit Mélenchon. Moi, je préfère que ce soit Macron.
Et ça s'arrête là. Vous parlez pas des autres candidats.
Si, des fois on dit qu'on l'aime pas parce que,
Parce que quoi? Reste avec nous, Sidonie. Reste avec nous. On va te poser encore quelques questions. Julie Pagis, à ce stade, sur nos deux jeunes électeurs.
Oui.
Auditeurs.
Oui, futurs électeurs. Pour rebondir sur le témoignage de Sidonie, elle nous a pas dit pourquoi il les aimait pas, mais ce que je voulais dire, parce que souvent on entend, mais en fait ils disent que ce que disent leurs parents. Non, en fait nous on les a interrogés sur tous les candidats et en fait les enfants vont les juger sur des points qui les concernent. Par exemple, on a des enfants qui nous disent Macron, t'es fou, il veut supprimer le portable au collège. Ou alors sur Fillon, ils réagissent tous sur la proposition du port de l'uniforme avec un qui dit il est fou, moi je veux m'habiller comme je veux. Ou alors avec la proposition d'abaisser la majorité à 16 ans, on a un enfant qui dit, l'autre ne savait pas ce que ça voulait dire, il répond, ça veut dire que tu vas en prison. Donc ils le prennent au sens comme un adulte. Et évidemment, sur la proposition de Marine Le Pen de ne pas octroyer la nationalité française à des enfants nés de parents étrangers, là, il y a des sentiments directement. Ils me demandent, mais Julie... moi, on va me renvoyer chez moi. Les enfants ont des choses à dire. Et évidemment, pour donner leur point de vue, il faut qu'ils s'impliquent. C'est le cas de tout le monde, qui s'implique à la première personne dans des situations qui les concernent.
Anne Muxel voulait dire un mot?
Moi je trouve que vraiment notre jeune, tout jeune auditeur a bien résumé la situation. Cette élection est vraiment très compliquée.
Sidonie, tu es encore là?
Oui.
Alors, tu veux pas nous raconter plus, un peu plus, ce qui se passe dans la cour de récréation en ce moment? Ça fait longtemps que vous parlez politique et que vous parlez des présidents de la République et de la campagne électorale.
Presque dès le début que ça a commencé les élections.
Ah oui, donc ça fait quand même de très longs mois là. Hein. Mmh. Alors Julie ici dans le studio, Sidonie veut te poser une question. Écoute-la bien.
Bonsoir Sidonie, moi je voulais savoir si quand vous jugez les candidats, est-ce que le fait que vous les trouviez beaux ou belles, est-ce que c'est important?
Non, pas trop. On parle plutôt de ce qu'ils veulent faire pour la France.
Ah oui.
D'accord.
Donc vous parlez programme. Julie, encore une question à Sidonie? Non, c'est bon. On te remercie beaucoup, Sidonie. Et bonne fin de campagne électorale et salut tes parents pour nous. Je vais donner la parole à Thierry qui nous appelle d'Ardèche. Bonsoir, Thierry.
Oui, bonsoir à tous. Félicitations pour les auditeurs de France Inter.
C'est grâce.
C'est la meilleure radio.
C'est gentil. C'est grâce à vous. On vous écoute, Thierry.
Voilà, donc une anecdote sur ce week-end. Donc, comme je pense beaucoup de familles, nous étions interrogatifs sur le déroulement du repas de Pâques, sur comment allons-nous terminer ce repas. Et on avait donc décidé de mettre une petite boîte avec le célèbre dessin de Carandache qui dit,
oui.
Tout le monde connaît sur l'affaire Dreyfus, avant le repas, ils ont décidé de parler politique et on les voit tous sur la table en train de se battre.
Oui.
Et donc, nous avions décidé quand même, malgré tout, puisque je suis élu local, donc très imprégné par la vie politique, de faire une simulation de vote. Donc, nous étions une vingtaine et nous avons fait un vote à bulletin secret. Voilà. Et donc, alors, sans parler de tendance, puisque quand même, je sais qu'il y a le temps de parole...
Ah oui, mais surtout pas, surtout pas.
Voilà. Simplement, bon, on peut voir à travers le vote que nous avons eu dans la famille, puisque nous étions une vingtaine, que ben, la diversité s'installe. Voilà. Mmh. Et que finalement, ce qu'on pourrait retenir aussi, c'est que l'appartenance politique se transmet parfois, mais se transmet pas parfois aussi. Voilà. Donc, c'était quand même intéressant. Et on s'aperçoit que dans la famille, puisque le panel était de l'âge de 15 ans jusqu'à 90 ans, voilà, tout le monde est intéressé, qu'on ait une personne de 90 ans et des enfants de 14 ans, 15 ans sont assez intéressé par les élections présidentielles de 2017.
Formidable Thierry, merci beaucoup pour votre accueil. La table, Anne Muxel.
Ah oui, la table c'est très important. Ben, c'est d'abord à table que la famille se réunit. Donc c'est évidemment les occasions de parler de politique, c'est d'abord à table. Et dans un moment quand même où les Français sont très intéressés par l'élection présidentielle, je rappelle que malgré la défiance, malgré le fait qu'il y a une dénonciation et un rejet de beaucoup de choses, ben malgré tout 82% des Français disent s'intéresser à l'élection présidentielle. Et on voit ces familles se réunir le jour de Pâques et ne pas éviter de parler de politique. Ils auraient pu, effectivement, pour se protéger, mais ils ne l'ont pas fait. Et même organiser un vote, c'est assez exceptionnel. Et ça montre bien l'intérêt des Français, quand même, pour ce qui est en train de se passer.
Est-ce que la transmission, Anne Muxel, de la politique et de la religion prend les mêmes chemins en famille ?
Oui, les convictions, hein. On peut dire que ce sont les convictions politiques et les convictions religieuses. C'est vraiment ce qui est au cœur de l'identité des individus. Donc, c'est ce qui se transmet. Mais pour prolonger la réflexion de Thierry sur sa famille, je dirais que ce qui se transmet le plus dans la famille aujourd'hui, c'est plus l'orientation, hein, idéologique. Être de gauche, de droite, ou ni de gauche, ni de droite. Mais à l'intérieur de ces familles politiques, la gauche, la droite, ou le fait de n'être ni de gauche ni de droite, alors il y a une plus grande autonomisation du vote. Et on peut, à l'intérieur du même camp politique, finalement, avoir des divergences assez fortes et qui peuvent s'exprimer en famille. Donc il y a toujours une transmission d'une sensibilité politique appréhendée au travers, effectivement, de cette bipartition gauche-droite qui reste quand même toujours en France assez structurante, en tout cas de façon élémentaire des identités. Mais il y a après des choix, une grande diversité de choix, voire de la mobilité à l'intérieur des camps.
Julie Pagis, puis Sébastien au standard.
Oui, je rejoins tout à fait l'importance de la table et des discussions. Mais du coup, je voulais juste nuancer entre guillemets en rappelant qu'il y a aussi beaucoup de familles, mais comme l'a dit aussi Anne Muxel tout à l'heure, où l'on ne parle pas à table, où on ne parle pas politique, ou même où on parle peu à table. Et pareil sur l'enfant comme partenaire de communication, là aussi c'est très socialement situé. Alors les familles où on parle plus déjà... Dans l'espace politique, on parle plus de politique dans les familles de gauche que dans les familles de droite. Après, dans certaines zones de l'espace social aussi, on parle davantage avec les enfants. Nous, sur l'enquête qu'on avait fait avec Wilfried Ligny en 2012, on avait à peu près 3/4 des enfants qui disaient parler de politique avec leurs parents. Mais par contre, en fait, c'était une grosse différence. C'était beaucoup plus dans les classes moyennes et supérieures, où il y avait une discussion à table, où on demande l'avis aux enfants, etc. Et moins dans les familles plus au pôle des classes populaires.
On a beaucoup parlé des parents, mais est-ce qu'il y a une répartition des rôles entre les deux parents, père, mère ? Est-ce qu'on parle de politique différemment ? Est-ce qu'il y a une relation différente qui se fait avec les enfants selon le sexe des parents ?
On parle un peu plus de politique avec sa mère, mais c'est surtout que les mères transmettent davantage leurs choix et leurs opinions politiques. Tout simplement parce que cette transmission se fait davantage au travers du contact quotidien qui reste encore plus important entre les mères et leurs enfants que les pères et leurs enfants. Bon, on peut le regretter bien sûr, mais c'est encore comme ça. Et donc au travers de l'infra, de la vie quotidienne, il y a de l'infra-politique finalement qui se transmet. Et toutes les études sur la socialisation politique ont montré que, eh bien, la transmissibilité des choix des mères était plus importante que celle des pères.
On retourne au standard, on aura Sébastien dans quelques instants, mais je voudrais donner la parole à Amélie. Amélie, bonsoir, vous nous appelez de Mulhouse.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bah, oui, merci, félicitations pour vos audiences et vos émissions.
C'est grâce à vous, merci.
En fait, moi j'appelais pour témoigner de ce que c'était d'avoir un conjoint qui n'était pas du même bord politique que ça, parce que moi je suis plutôt de gauche et mon conjoint est plutôt de droite. En gros, il a voté Sarkozy en 2012 et moi pour François Hollande. Déjà, ça refroidit les ambiances de soirée électorale. Il y en a toujours un qui n'est pas content, globalement. Et surtout, je voulais dire que pour moi, la clé, c'était de ne pas essayer de convaincre son conjoint à tout prix. Parce que sinon, ça donne lieu à des discussions interminables et qui peuvent être, à mon avis, des causes de...
De divorce,
de rupture,
ouais.
Voilà.
Ou de séparation.
Et surtout, ce qui nous permet de nous comprendre et de nous expliquer, de nous comprendre, c'est que devant les enfants, on est obligé d'aplanir nos discussions, nos opinions, de les expliquer de manière plus simple et moins enflammée. Et c'est vrai que ça aide à se comprendre et puis à être moins radical dans ses opinions.
Alors voilà. Amélie, vous avez abordé l'hypothèse catastrophique de la rupture. Venons-en maintenant au moment fondateur. Est-ce que au moment de la rencontre et de la rencontre amoureuse, le clivage politique était déjà là ou pas?
Bah alors je crois qu'on est moins, en tout cas nous, on est moins positionnés, on dit moins les choses clairement quand on se rencontre. Après, on n'est ni l'un ni l'autre des extrémistes absolus, donc c'est pas rédhibitoire ni pour l'un ni pour l'autre d'être avec
C'est sexy ou pas,
Non, je dirais pas que c'est sexy, mais disons que en tout cas, c'est pas rédhibitoire. J'ai des amis qui sont pour qui ce serait rédhibitoire d'être avec quelqu'un de droite, voilà, ou vice versa d'ailleurs. Mais au moment de la rencontre, non, je crois qu'on dit, on est quand même plus à l'aise pour dire et exprimer les choses quand on est depuis longtemps avec quelqu'un qu'au début, à mon avis. Voilà.
Merci beaucoup Amélie pour votre appel qui ouvre un autre continent dans notre discussion. Comment ça se passe en couple alors, Anne Muxel?
Ben, en couple, voilà, il y a un quart des couples qui ne partagent pas les mêmes choix politiques. Bon, les trois quarts les partagent. Mais pour le quart qui ne les partage pas, c'est quand même pas rien. Donc, il y a évidemment la nécessité de s'arranger avec ce désaccord et faire en sorte que ce désaccord vienne pas entamer le lien d'amour, entamer la relation profonde entre les deux membres du couple. Alors pour ça, il y a évidemment différentes formes d'arrangement. Il y a évidemment les couples qui vont évincer complètement la politique, en faire un objet tabou, un sujet tabou pour protéger la relation. Il y a les couples qui vont au contraire accepter cette dispute quasi rituelle qui va partir au quart de tour, toujours la même, et pour laquelle effectivement un certain nombre de disputes vont toujours suivre le même cheminement. Il y a les couples qui vont s'en sortir par l'humour. L'humour, la dérision, la légèreté, hein, donc qui considère que finalement la discorde c'est un moyen de moins s'ennuyer, ça pimente, ça pimente la relation. Et puis il y a aussi les couples alors qui vont faire du désaccord, de la différence finalement un paramètre vertueux finalement de leur relation. Hein. C'est ce que j'ai pu appeler l'intimité démocratique dans tout le travail que j'ai fait là-dessus, c'est-à-dire où on considère que l'autre est intéressant et on peut l'aimer parce que différent et que justement la différence de l'autre le rend encore plus intéressant et que la relation est d'autant plus importante que l'on s'intéresse au travers de la différence que chacun doit et peut respecter.
Alors voilà pour voilà pour les 25% qui ont des opinions politiques différentes en couple, mais les 75% qui ont la même opinion, comment se fait-il que les affects soient à ce point modelés par le choix politique identique? Je trouve ça vertigineux comme question.
Parce qu'on veut pas prendre un risque. En fait, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'affects dans la politique. toxiques dans l'amour. Inutile de vous dire qu'il y en a aussi beaucoup. Donc, il y a l'idée que eh bien, les deux doivent coïncider et que ce serait très, très difficile d'aimer quelqu'un qui ne partage pas les mêmes idées. Ce sont des personnes qui considèrent que ça vient entamer justement l'amour que de ne pas partager les mêmes convictions. Donc, dans un couple, et généralement, ce qui intervient, c'est la difficulté, et le témoignage était très révélateur de ce point de vue, la difficulté d'élever, par exemple, ensemble des enfants avec des valeurs qui, arrimées à des orientations idéologiques de gauche ou de droite, ne sont pas les mêmes, et donc de donner en spectacle finalement aux enfants.
De mettre au monde un petit centriste.
Voilà, non mais plutôt des disputes et des divergences.
Julie Pagis, oui, et on retourne au standard.
J'aurais aimé demander à Amélie, du coup, si ses enfants, s'ils étaient assez âgés pour avoir déjà des préférences politiques, parce qu'effectivement, on
Amélie
sait...
Amélie est là.
Ah. Oui.
Alors
oui. Alors, notre enfant commun a 2 ans, donc non. Et l'aîné, qui est le fils de mon conjoint, s'intéresse, mais sans marquer une préférence. Après, il s'intéresse et je pense qu'il écoute ce que chacun de nous pense. Voilà.
Julie.
Oui, parce que ce qui est intéressant dans ces cas, effectivement, où les préférences parentales sont différentes, c'est que les enfants, du coup, savent plutôt, se rendent compte plutôt que la sphère politique est une sphère conflictuelle et que, en fait, parce que sinon, dans les autres familles, les enfants pensent que la préférence politique est une vérité. Enfin, et qu'il n'y a pas, et donc, prennent conscience plus tardivement que bah il y a des vérités qui s'affrontent et des préférences qui s'affrontent, alors que là en tout cas les enfants plutôt comprennent qu'il y a des conflits et des idées qui sont pas d'accord.
Une dernière question, Anne Muxel, parce que vous devez nous quitter un tout petit peu avant la fin de ce téléphone sonne. On a parlé des familles, on a parlé des couples. Qu'en est-il des célibataires? Est-ce que c'est un biais? Est-ce qu'il y a un biais sociologique quand on est seul, qu'on vit seul, qu'on ne vit pas en couple? Est-ce que ça suscite un comportement électoral notable?
Ah, quelle question! Les célibataires,
oui.
Sont-ils des hommes ou des femmes comme les autres?
Oui, voilà, enfin, c'est une question très intéressée que je vous pose.
Bon, on a pu remarquer, par exemple, les études sur la participation électorale ont pu montrer que quand on est célibataire, on a peut-être un peu plus de chances de ne pas aller voter, d'être plus abstentionniste que quand on est en couple et a fortiori quand on a fondé une famille. Bon, à part ça, on n'est pas plus de gauche ou de droite si
d'accord,
on est célibataire.
C'est sur le vote, en fait, que ça joue la capacité à se rendre aux urnes ou pas, ou un peu moins.
Et probablement qu'un célibataire qui voudrait rencontrer quelqu'un, justement, ne va pas forcément mettre dans son plan de rencontre d'abord la politique comme premier choix de discussion et d'entrée en matière.
Effectivement, on a bien compris que ça pouvait être grave. Eliane, bonsoir.
Bonsoir.
Expliquez-nous ce que vous voulez nous dire. On vous écoute, Eliane.
Ben, je voulais juste dire que je suis une grand-mère.
Oui.
Et que, comme beaucoup de personnes l'ont déjà dit, à table, souvent, quand on est en repas de famille, la politique vient sur le tapis. Surtout en ce moment, au moment des élections, mais même à d'autres moments. Et bon, chez nous, tout le monde est du même bord, disons. Mais je voulais dire que une personne a dit quelque chose qui a correspondu à ce que je pense. Dans le même bord, il peut y avoir des modulations, des graduations,
des nuances,
voilà. Et des enfants sont peut-être plus spontanés, donc plus je sais pas comment dire.
Bon, mais en tout cas, ça se passe bien.
Alors moi, j'essaye un peu de tempérer, parce que j'essaye de leur dire qu'il faut quand même ne pas être si autoritaire, si on peut dire, qu'il faut quand même, la tolérance existe, il faut respecter quand même les idées de chacun. Ils sont un peu plus intempestifs que moi.
Bah écoutez, merci beaucoup Eliane pour votre appel. Bonne fin de campagne à vous et bon vote, bonne élection ce dimanche. Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous attendez depuis 20 minutes, excusez-moi.
Même.
Nous vous écoutons, Sébastien.
Oui, alors déjà bravo pour les scores de France Inter. Moi, ça fait 20 ans que je vous écoute et je suis content d'avoir eu raison avant tout le monde. Hein.
Vous étiez une avant-garde et nous sommes désormais une armée, c'est ça?
Oui. Ensuite, voilà, ma question, c'était alors nous, par rapport à tout ce que vous évoquez sur la politique en famille, moi, je suis un petit peu un cas atypique, si vous voulez, un père à droite, voire très à droite, une mère qu'on n'a jamais rien eu à faire. De la politique, je veux dire, qu'a jamais voté. Mes sœurs et moi, on est plutôt sur un versant de gauche, si vous voulez. Et sans aucune vergogne, j'imprime mes convictions politiques à mes deux enfants là qui vous écoutent avec moi là. Je les emmène voter. On va dans l'isoloir. Il y a des bulletins auxquels on n'a pas le droit de toucher parce que ça salit, etc., etc. Hein. Et si vous voulez, je repensais à ça tout à l'heure.
Ils ont quel âge vos enfants? Sébastien, ils ont quel âge, vos enfants?
7 et 13.
Ah oui?
Ouais, et un jour, les gamins de Brice... J'avais entendu les gamins de Brice Hortefeux dire à la télé que Ségolène Royal était méchante, si vous voulez. Donc moi, ça m'avait complètement déculpabilisé de refourguer à ce point-là mes convictions politiques à mes gamins. Maintenant, ma question, c'était, est-ce qu'il y a des études qui auraient tendance à montrer de quelle manière les gamins, une fois devenus adultes, continuent d'adhérer ou au contraire, pour un versant complètement opposé, à l'éthique politique que leurs parents ont essayé de leur...
Inculquer à coups de pied dans le derrière.
Ouais, c'est ça.
Restez en ligne, Sébastien. Julie Pagis.
Oui, donc moi j'ai quand même principalement travaillé sur les enfants de l'âge de vos enfants, mais on sait en sciences politiques que c'est plus de 66%, donc plus des deux tiers des enfants devenus adultes hein, qui conservent, qui gardent les préférences politiques qui étaient celles de leurs parents. Donc il y a quand même la reproduction est la norme. Et par rapport à ce que vous avez dit sur comment vous y prenez avec vos enfants, là aussi nous on a plein de témoignages d'enfants. Qui vont voter et puis qui n'ont pas le droit de toucher certains bulletins. Effectivement, c'est des choses qui marquent. C'est des choses qui marquent parce que le vote est un rituel, comme on sait, c'est une institution. Et c'est un moment, on va dans un endroit qui fait un peu peur, qui est froid. On va dans l'isoloir et en même temps, on sait que normalement, on n'a pas le droit d'y aller. On doit y aller seul, mais c'est vrai que les enfants, des fois, on les accepte. Donc voilà, c'est des moments très importants. Et alors, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Certains bulletins sont sales parce que les enfants, en fait, pour juger les hommes politiques. Ils utilisent des critères des fois un peu étonnants. Ils utilisent beaucoup des critères, en fait, et c'est tout notre modèle dans le livre qu'on a fait avec Wilfried Ligné. Ils recyclent, ils transposent des critères, en fait, qu'on leur assène à eux quotidiennement dans leur éducation familiale, et notamment le sale, le propre. Touche pas à ça, c'est sale. Fais attention, reste propre, etc. Et eux, en fait, recyclent, transposent ces critères pour juger des métiers ou des hommes politiques. Et donc, voilà, ils vont nous dire, alors, donc, il y a le sale, le propre, le beau, le moche, le bien habillé, mal habillé, donc ils vont dire que Marine Le Pen est mal habillée, ouais. J'ai des exemples qui me viennent en tête, qu'un tel est moche, etc. Et donc le critère du sale versus propre est central pour eux.
Julie Pagis, merci beaucoup. Votre livre avec Wilfried Ligné, L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social, c'est aux éditions du Seuil. Merci évidemment beaucoup à Anne Muxel qui était avec nous jusqu'à il y a quelques instants, 19h59.